Vous écoutez, on lit pour vous.
Forger des milieux de vie pour aînés plus inclusifs. Un texte commandité paru le 3 août 2025 dans la presse. Bien que les mentalités aient évolué, plusieurs personnes LGBTQ+ préfèrent encore taire leur orientation sexuelle ou leur identité de genre lorsqu'elles intègrent un milieu de vie pour aînés, par crainte de ne pas être pleinement acceptées. Comment favoriser des résidences plus inclusives? Portrait de la situation et piste de solution avec Julien Rougerie, formateur et spécialiste contenu à la Fondation Émergence. Pourquoi les milieux de vie pour aînés devraient-ils être plus inclusifs? De nombreuses personnes âgées, LGBTQ+, se retrouvent isolées dans un milieu de vie pour aînés peu ouvert à leur réalité ou elles ne se sentent pas à l'aise d'être elles-mêmes, explique Julien Rougerie. Cela a malheureusement des conséquences importantes sur leur bien-être et leur participation sociale. Il est donc indispensable que les résidences pour aînés fournissent des efforts pour être plus inclusives afin que les personnes LGBTQ+, qui représentent quand même 10% de la population, se sentent acceptées. Quelles sont les inquiétudes des personnes LGBTQ+, par rapport à la vie en résidence? Malgré les progrès des dernières années, les préjugés persistent, notamment dans les milieux pour aînés, soutient le formateur de la Fondation Émergence. C'est pourquoi les personnes LGBTQ+, ressentent de nombreuses inquiétudes concernant la vie en résidence. Elles craignent, entre autres, de ne pas pouvoir partager aisément leurs expériences de vie ou encore de subir du rejet si l'on apprenait leur homosexualité ou leur transidentité, aussi bien de la part des autres résidents que du personnel. Ces inquiétudes sont-elles reliées au parcours de vie des personnes âgées LGBTQ+? Oui. Les personnes âgées LGBTQ+, ont vécu diverses formes de discrimination au cours de leur vie, rappelle M. Rougerie. Nombre d'entre elles ont été contraintes de cacher leur orientation sexuelle ou leur identité de genre pour éviter la prison, l'internement dans des hôpitaux psychiatriques ou les thérapies de conversion. Presque toutes ont vécu des formes de rejet par leur famille, leurs amis ou leurs collègues de travail. Elles ont également connu la stigmatisation liée à la crise du sida. Certaines ont aussi vécu des agressions verbales et physiques. Toutes ces discriminations ont laissé des séquelles profondes chez ces personnes. La peur du rejet revient donc lorsqu'elles intègrent un milieu de vie pour aînés. Que doivent faire les résidences pour être plus inclusives? Avant toute chose, les milieux de vie pour personnes aînées doivent être proactifs dans leur démonstration d'ouverture à l'égard de la diversité sexuelle et de genre, affirme le formateur. Le sujet s'avère encore tabou, ce qui fait que bien souvent, les organisations et les membres de leur personnel n'osent pas en parler. Pourtant, les personnes âgées LGBTQ+, sont présentes dans ces milieux et elles attendent des signes d'ouverture. Les résidences qui se positionnent par rapport à la diversité sexuelle et de genre, que ce soit en formant leur personnel, en organisant une journée thématique LGBTQ+, comme celle du 17 mai, ou en affichant bien en vue la charte de la bientraitance envers les personnes aînées lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, font reculer le tabou et permettent aux personnes aînées LGBTQ+, de se sentir plus en sécurité d'être elles-mêmes. La Fondation Émergence propose des formations à toutes les personnes qui offrent des services aux aînés afin de les aider à mieux comprendre les réalités LGBTQ+, et à mieux répondre à leurs besoins. Avez-vous des exemples de bonnes pratiques d'inclusion à adopter en résidence? Si vous travaillez avec les personnes âgées, employez un discours inclusif et ne tenez pas pour acquis qu'elles sont forcément hétérosexuelles ou cisgenres, souligne M. Rougerie. Il y a plein de façons de poser des questions ouvertes sans présumer de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre d'un individu. Au lieu de parler de conjoint ou de conjointe, vous pouvez, par exemple, demander à la personne si elle est en couple ou si elle partage sa vie avec quelqu'un. Par ailleurs, si vous êtes témoin de propos homophobes ou transphobes, réagissez et montrez que vous ne validez pas ce genre d'affirmation. C'était « Forger des milieux de vie pour aînés plus inclusifs », un dossier commandité paru le 3 août 2025 dans La Presse.
Le Québec abriterait les plus vieilles roches du monde. Un texte de Jean-Benoît Legault de La Presse canadienne paru le 27 juin 2025 dans Le Devoir. C'est au Nunavik, dans le nord du Québec, qu'on retrouve possiblement les plus vieilles roches au monde, croit un chercheur ontarien. Ces roches se sont formées quelques centaines de millions d'années seulement après la formation de la Terre elle-même, ce qui signifie qu'elles sont vieilles d'environ 4 milliards d'années, a dit le professeur Jonathan O'Neill de l'Université d'Ottawa. Ces roches seraient les seules actuellement connues qui proviennent d'une période qui couvre quasiment les 600 premiers millions d'années de l'histoire de la Terre, a résumé le chercheur. Le professeur O'Neill et ses collègues s'intéressent depuis de nombreuses années à la ceinture de roches vertes de Nouveau-Aguitouc, une formation rocheuse située sur la rive est de la baie d'Hudson, à une quarantaine de kilomètres au sud-est d'Inukjuak. Des travaux qu'ils ont publiés en 2008 démontraient que certaines des roches qu'on y trouve datent de l'Adéan, le premier éon de l'histoire de la Terre, qui commence avec la formation de la planète il y a environ 4,6 milliards d'années, pour se terminer environ 600 millions d'années plus tard, et qu'elles sont donc incroyablement anciennes. Leur âge proposé à ce moment, soit 4,3 milliards d'années, ne faisait toutefois pas l'unanimité pour différentes raisons. La plus récente étude publiée par la prestigieuse revue Science fait appel à des méthodes d'analyse très sophistiquées et raffine l'âge de certaines roches à 4,16 milliards d'années. Le problème avec l'Adéan, c'est qu'on a très peu de matériel avec lequel travailler, a dit le professeur O'Neill. On n'a quasiment pas de matériel terrestre qui date de cette période-là. Tout a été détruit, tout a été recyclé. La Terre est très efficace à recycler sa propre croûte et refondre ses propres roches. On ne s'explique pas vraiment comment ou pourquoi des roches aussi anciennes sont toujours accessibles aujourd'hui, a-t-il admis, mais on sait de longue date qu'une vaste portion du bouclier canadien donne accès à certaines des roches les plus vieilles de la planète. On considérait ainsi, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, a dit le professeur O'Neill, que la plupart des roches du Nunavik avaient entre 2,7 milliards et 3 milliards d'années. Une vaste campagne de cartographie organisée par le gouvernement du Québec au début des années 2000 a tout chamboulé quand on y a trouvé des roches vieilles de 3,8 milliards d'années. Il y a seulement 5 ou 6 endroits à travers le monde où on retrouve des roches aussi vieilles, a-t-il rappelé. Donc c'est certain que ça a suscité un grand intérêt. Un petit cours de géologie est ici nécessaire. Les roches qui ont été examinées dans le cadre de la nouvelle étude et dont l'âge a été épinglé à 4,16 milliards d'années sont en intrusion dans la ceinture Nouveau-Aguitouc, ce qui veut dire qu'elles recoupent ce qu'on appelle les roches encaissantes, a expliqué le professeur O'Neill. Il y a un principe en géologie qui nous dit qu'une roche qui en recoupe une autre ou une roche qui est en intrusion dans une autre doit nécessairement être plus jeune, a-t-il précisé. On ne peut pas recouper quelque chose qui n'existe pas. On peut donc logiquement en conclure que les roches encaissantes sont encore plus vieilles que les roches en intrusion, qui font l'objet de la plus récente étude. Ce sont ces roches encaissantes dont l'âge avait été évalué à 4,3 milliards d'années lors de l'étude publiée en 2008. Les chercheurs, qui avaient alors prétendu qu'elles avaient plutôt 3,8 milliards d'années, pourraient maintenant devoir se raviser, croit le professeur O'Neill. Oui, on se dispute pour environ 500 millions d'années, mais c'est important, a-t-il dit. En étudiant l'âge des roches en intrusion, ça impose une limite inférieure à l'âge des roches encaissantes, et leur âge minimum devient 4,16 milliards d'années. Donc, nécessairement, les roches encaissantes doivent être plus vieilles, et on croit qu'elles ont 4,3 milliards d'années. Ses collègues et lui, a affirmé le professeur O'Neill, sont d'avis que la nouvelle étude apporte vraiment des contraintes encore plus fortes pour suggérer que ces roches sont adéanes, donc plus vieilles que 4 milliards d'années. Pour des gens comme lui qui sont intéressés à étudier comment la jeune Terre a grandi dans son enfance et dans son adolescence, les roches et les minéraux sont autant de livres qui racontent l'histoire de la Terre, a expliqué le chercheur. Si on veut comprendre comment la Terre s'est formée, si on veut savoir s'il y avait une tectonique des plaques alors que la planète était toute jeune, si on veut analyser la composition des océans précoces et peut-être y déceler les premiers signes de vie sur Terre, on a besoin d'étudier les plus vieilles roches qu'on peut trouver, a-t-il dit. C'est beaucoup plus que dire que ma roche est plus vieille que ta roche, a conclu en riant le professeur O'Neill. C'est une fenêtre unique sur la jeune période de notre planète. C'était « Le Québec abriterait les plus vieilles roches du monde », un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, paru le 27 juin 2025 dans Le Devoir.
Le Hokulea et la Renaissance hawaïenne aujourd'hui. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 12 août 2025 dans Le Devoir. Début août 2024, un mois avant mon départ d'Hawaï, j'ai la chance de visiter le Hokulea. Ce navire mythique, j'en entends parler depuis mon arrivée dans l'archipel, et je l'aperçois chaque jour sur des plaques d'immatriculation. Si Hawaï était un pays, on frapperait certainement cette pirogue polynésienne sur ses pièces de monnaie. Il y a 4 jours à peine, ce monument de l'histoire hawaïenne, bâti en 1975, effectuait un court voyage à Lahaina afin de souligner le premier anniversaire des feux. Ce matin, le Hokulea repose sur l'eau turbide de Sand Island, une petite île à vocation industrielle dans le sud-est d'Honolulu. Ses voiles sont enroulées. Je ne suis pas le seul visiteur qui monte à bord de la Wa'a pirogue aujourd'hui. Des adolescents de l'école privée Kamehameha, destinés à l'éducation des jeunes Hawaïens autochtones, viennent également admirer la légende. Vous êtes maintenant sur le pont du Hokulea, un endroit super puissant, super important, annonce Chris Blake, l'enseignant de navigation ancestrale qui supervise le groupe. Avant de mettre un pied à bord, la classe et ses 2 guides, Chris Blake et Lucy Lee, une navigatrice de 23 ans, ont entonné un chant rituel. C'est tellement cool de visiter le Hokulea. Quand on grandit à Hawaï, on le voit partout, à la télé, sur Internet, me dit Anela Okoana, l'une des élèves. Le navire est en constante évolution, explique Chris au groupe. Le défi, c'est d'honorer les traditions du passé, tout en créant une embarcation plus sécuritaire et plus performante grâce à la technologie moderne. voilà près de 50 ans, une petite équipe a bâti ce navire de 19 mètres en reproduisant l'architecture des anciennes pirogues polynésiennes, alors disparues d'Hawaï depuis longtemps. Herb Kawainui Kane, un artiste travaillant dans l'industrie publicitaire, se passionnait pour ces wa'a dont seuls quelques croquis subsistaient dans les livres. Il en faisait des dessins techniques pour le plaisir. Puis un jour, il se mit en tête de faire passer la pirogue du calepin à la réalité. En 1973, il rencontra Ben Finney, un anthropologue californien fasciné par la culture hawaïenne. Ce dernier se joignit tout de suite au projet, avec un objectif scientifique en tête. Grâce à un tel navire, il serait possible de prouver que les Polynésiens avaient navigué sciemment et magistralement d'un bout à l'autre du Pacifique. Cet exercice d'archéologie expérimentale pourrait clouer le cercueil de la théorie selon laquelle ce peuple dérivait d'une île à l'autre sur de vulgaires radeaux, théorie popularisée dans les années 1940 par l'explorateur norvégien Thor Heyerdahl et son Kon-Tiki. Une équipe s'assembla donc autour des deux visionnaires, Herb et Ben. En tout juste 2 ans, la pirogue à double coque prenait forme sur un chantier naval improvisé à Honolulu. Des volontaires donnaient temps et sueur. Des matelots apprenaient à manœuvrer le Hokulea grâce à de courtes sorties autour des îles hawaïennes. Un objectif se dessinait, rejoindre Tahiti, presque 5000 kilomètres au sud. Aussi difficile soit-il de fabriquer une pirogue de haute mer, le véritable défi ne résidait pas là. Il s'agissait plutôt de réapprivoiser les méthodes traditionnelles dont disposaient les Polynésiens d'autrefois pour s'orienter lors d'un voyage sur une telle embarcation, la contemplation des étoiles, la lecture des houles, l'observation des oiseaux. Quand on monte à bord pour un long voyage, on doit enlever notre montre. C'est au navigateur de savoir où nous nous trouvons sur ce bleuet géant qu'on appelle la Terre, explique Chris Blake, qui a participé à de grandes expéditions. Dans les années 1970, ce savoir-faire s'était effacé de pratiquement toutes les mémoires du Pacifique. L'équipe du Hokulea, baptisée du même nom que l'étoile du bonheur, celle au zénith d'Hawaï, réussit toutefois à recruter Mau Piailug, un navigateur de l'île de Satawal en Micronésie, l'un des rares marins à encore pratiquer cet art ancien. Pour mener un navire à bon port, ce maître des mers savait cultiver une carte mentale de sa position nuit et jour, ne lâchant jamais prise durant l'entièreté d'un voyage. Il avait mémorisé la toile mouvante des étoiles grâce à des histoires appartenant à une tradition orale perfectionnée durant des millénaires et transmise par ses mentors. Voyant d'année en année le peuple de Satawal adopter les mœurs modernes, Mau Piailug se préoccupait de voir la navigation ancestrale disparaître. Il accepta donc d'épauler l'équipe hawaïenne dans l'espoir de donner un nouveau souffle à cet héritage menacé. Aujourd'hui, une nouvelle génération apprend cet art qui fut préservé à minuit moins une pour la suite du monde. Lucy Lee fait partie des héritiers. Cette jeune femme, une diplômée de l'école Kamehameha, se familiarise avec le ciel pour, un jour, en faire la carte de navigation d'une longue traversée. Nainoa Thompson, maintenant âgée de 72 ans, est son professeur. Il y a deux facettes à l'apprentissage de la navigation, explique Lucy. La première est extrêmement mathématique. Il s'agit de calculer le chemin pour se rendre d'un point A au point B. C'est semblable à n'importe quelle science. La deuxième facette, c'est ce que Nainoa appelle la magie. C'est le raffinage de nos instincts. À mesure qu'on gagne en expérience, on arrive à observer de nouvelles choses. Cette relation profondément personnelle avec la nature, c'est ce que la navigation en mer m'offre de plus beau. Voir le peuple hawaïen puiser ainsi dans des pratiques presque disparues, des pratiques en équilibre avec la nature, m'impressionne beaucoup. Avec la renaissance de la navigation, les Kanaka Maoli ont pour objectif de regagner leur fierté. Pour ma part, j'y discerne aussi l'occasion de créer un monde meilleur pour aujourd'hui. Les Hawaïens sont des gens de la mer. Et pourtant, dans leur archipel, un simple voyageur ne peut se déplacer d'une île à l'autre en bateau. Aucun service de transport maritime n'est offert aux particuliers. Seuls des avions relient ces îles. Je rêve de voir des pirogues polynésiennes avec un moteur d'appoint électrique, pourquoi pas, reprendre du service à Hawaï. Le passé nous offre d'infinies leçons pour élaborer un mode de vie sobre. C'était Le Hokulea et la Renaissance hawaïenne aujourd'hui, un texte d'Alexis Riopel, paru le 12 août 2025 dans Le Devoir.
L'alimentation et le cancer de la prostate. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 13 juillet 2025 dans La Presse. Une lectrice, Chantal Allen, demande « Y a-t-il des aliments susceptibles de causer le cancer de la prostate? » On ne sait pas avec certitude, mais l'excès de produits laitiers pourrait être problématique, selon une chercheuse de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS. Certaines études montrent qu'un régime trop riche en produits laitiers et en calcium augmente le risque de cancer de la prostate, dit Marie-Élise Parent de l'INRS, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en épidémiologie environnementale du cancer. De même, il se pourrait que des déficiences en vitamine E et en sélénium augmentent aussi le risque. Outre le lait, les sources de calcium dans l'alimentation sont les légumes verts et les noix. La vitamine E se trouve dans les huiles végétales, les noix et les graines et les légumes verts. Quant au sélénium, il provient des noix, des poissons et fruits de mer et de la viande. Étant donné l'incertitude, l'autorité en la matière, le World Cancer Research Fund, WCRF, ne considère pas qu'il y ait des facteurs de risque alimentaire pour le cancer de la prostate, note Mme Parent. Le WCRF est une organisation de Londres qui réunit périodiquement des comités d'experts pour se pencher sur ce type de questions. Ces recommandations pour éviter le cancer de la prostate sont les mêmes que pour les autres types de cancers et pour les maladies cardiovasculaires, manger santé et varier et être actif, dit Mme Parent. Pendant longtemps, on a cru que l'excès de viande rouge et de certaines graisses augmentait le risque de ce cancer et que le lycopène, un composé notamment présent dans la tomate, avait un effet protecteur. Mais finalement, ce n'est pas le cas dans tous ces cas, dit Mme Parent. Le cancer de la prostate est étudié sous la loupe de l'alimentation parce qu'il est beaucoup plus fréquent dans certains pays. Il y a des taux beaucoup plus élevés en Amérique du Nord qu'en Asie, constate Mme Parent, et quand les gens changent de pays, leur risque change, probablement parce qu'ils adoptent les habitudes de vie de ce nouvel endroit. Donc, on pense qu'il y a des facteurs environnementaux importants. Obésité. Elle a elle-même mené plusieurs études sur la question. L'une d'entre elles, publiée en 2020 dans la revue Nutrients, étudiait trois types d'alimentation. Santé, riche en sucre et riche en aliments salés et en alcool. Comparé au régime santé, le régime contenant beaucoup de sucre était associé à un risque 35 % plus élevé de cancer de la prostate. Le risque était plus important pour ce qui est des cancers de stade plus avancé. Une autre étude de Mme Parent, publiée en même temps dans la même revue, portait sur les aliments ultra-transformés qui augmentent le risque de cancer de la prostate. La différence était de 29 % quand on comparait les 25 % de gens qui consomment le plus de ces aliments avec les 25 % qui en consomment le moins. Ici aussi, le risque était plus important pour ce qui est des cancers de stade plus avancés. Enfin, une autre, publiée en 2021, dans la revue Cancer, Causes and Control, a conclu que l'obésité augmente le risque de cancer de la prostate. L'augmentation est encore plus importante pour les cancers de la prostate plus agressifs, dit-elle. L'obésité est souvent liée à l'alimentation. En savoir plus, source, Société canadienne du cancer. 28 000, nombre de Canadiens qui reçoivent chaque année un diagnostic de cancer. 91 % taux de survie 5 ans après un diagnostic de cancer de la prostate. 41 % taux de survie 5 ans après un diagnostic de cancer de la prostate avancé, stade 4. C'était L'alimentation et le cancer de la prostate, un texte de Mathieu Perrault, paru le 13 juillet 2025 dans La Presse.